Question d'islam par Ghaleb Bencheir. Bonjour chers amis auditeurs, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons à la fois de la Mecque, nous ferons connaissance avec cette cité, à travers le regard d'un explorateur, voyageur, aventurier. On dit que c'est le premier occidental à avoir visité cette ville sainte, ce périmètre sacré de la Kaaba, la demeure de Dieu, qu'est Ludovico di Vartema. Nous ferons connaissance davantage avec l'homme en le présentant par le philosophe et journaliste Omar Merzoug. Omar Merzoug, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe de formation, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la philosophie islamique, vous êtes traducteur de textes poétiques anciens, et vous vous intéressez aussi à ces voyageurs, à ces explorateurs. Et d'ailleurs, pourquoi l'intérêt et l'engouement, je l'ai vu dans certains de vos articles, à propos de Ludovico di Vartema, et vous dites que même l'orthographe de son nom est capricieuse, peut-être qu'il ne s'appelle pas di Vartema.
En général, je m'intéresse aux sujets qui sont au confluent des deux cultures, hein, musulmane et occidentale, sans doute de par ma situation.
Vous opposez islam à Occident, enfin versus Occident, non, c'est chrétien.
Non, pas spécialement, mais sans doute c'est lié à ma situation, donc de entre guillemets, d'oriental vivant en Occident depuis très très longtemps. Et donc je m'intéresse à tous aux sujets qui concernent les deux cultures, où on peut voir une interaction, des influences réciproques, mutuelles, etc. Et ça m'a conduit à m'intéresser non seulement à di Vartema, mais à une quinzaine de voyageurs qui ont fait directement le voyage de l'Arabie, et notamment qui ont visité les lieux saints de l'islam, souvent en prenant des risques considérables, souvent en se convertissant à l'islam. Alors, sincèrement, pas sincèrement, le débat.
Conversion de complaisance, en tout cas,
voilà,
pour sauver leur vie.
Voilà, pour sauver leur vie. Certains ont été rudoyés, maltraités, comme Charles Doughty au XIXe siècle, qui a par deux fois risqué sa vie, risqué de mourir. Ulrich Jaspers Zetsen, qui est un explorateur allemand, a écrit lui-même qu'on l'avait averti que les Wahhabites allaient certainement lui faire un mauvais sort, mais que malgré tout, les découvertes qu'il allait faire en Arabie, notamment au Yémen, valaient la peine d'être menées malgré ces risques.
Richard Burton,
lui aussi, donc, a fait ce voyage. Donc, tous ces gens-là m'ont intéressé, et surtout l'époque entre le 16e et le 19e. Parce qu'après le 19e, interviennent les nouveaux moyens de communication rapide, l'avion, etc. Et le voyage n'a plus du tout le même sens, en fait.
Rappelons pour les auditeurs que ça nécessite même d'ailleurs une émission ad hoc, que le parvis de la Kaaba et la ville elle-même sont considérées comme réservées uniquement aux musulmans, ce qui pose une sérieuse question sur la circulation des personnes. Et cette idée-là demeure de nos jours. D'aucuns la comprendraient uniquement lors du pèlerinage, mais avoir étendu ce caractère interdit de la cité aux non-musulmans pose problème.
On dit que c'est le deuxième calife de l'islam qui a décidé que l'Arabie musulmane serait interdite aux non-musulmans, et pas seulement, comme vous le dites, le parvis et la Kaaba, donc le temple lui-même.
C'est une initiative humaine qui n'a pas de fondement théologique et qui se trouve frappée d'une dimension sacrale alors que ça ne le mérite pas.
Oui, c'est tellement une initiative humaine d'ailleurs que ça a suscité les protestations du quatrième calife, qui ne l'était pas encore à cette époque, donc Ali, qui est le cousin du prophète, et qui a trouvé que cette décision était abusive,
arbitraire,
et qu'elle ne s'imposait pas du tout, qu'elle ne relevait absolument pas du dogme.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle perdure jusqu'à nos jours, et ça fait partie de ces débats sur les droits fondamentaux de la personne humaine et la liberté de circulation.
Absolument. Aussi.
Alors, dans ce contexte, mais là on est plutôt à la charnière du 15e, 16e siècle, puisque la trajectoire de vie de Ludovico di Vartema, le Bolognais, comme
oui,
on dit,
voilà,
est 1470-1517, si tant est que ces dates-là soient justes.
Alors le savant éditeur de son itinéraire dit qu'il n'a trouvé aucun document permettant de dater sa date de décès. Alors on suppose qu'il est mort en 1517 et qu'il serait né en 1470. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui existe, je veux dire, qui a une réalité historique, c'est pas du tout un personnage mythique, et il est sûr qu'il a fait un certain nombre de voyages. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt l'Arabie, mais l'itinéraire raconte tout son périple en Égypte.
L'itinéraire, c'est le nom de sa
relation de voyage. L'itinerario raconte donc son séjour en Égypte, en Syrie, en Arabie déserte et en Arabie heureuse, en Perse, en Inde.
Jusqu'aux Moluques.
Voilà, exactement. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. Alors on a émis des doutes sur sa présence ici ou là, mais il est certain qu'il a visité l'Arabie, hein, ça c'est certain.
Et même le Yémen, on verra au cours de l'émission, toutes ces tribulations, ces pérégrinations.
Alors cela dit, c'est un personnage qui ne se signale pas particulièrement par un bavardage sur lui-même. C'est-à-dire qu'il aurait pu effectivement donner plus de détails sur sa personne. Il est très très discret et il est encore plus discret sur sa supposée conversion à l'islam.
On reviendra sur tout ça maintenant. On essaie de cerner un peu le personnage et sa famille. Il est ou il serait originaire de Bologne, bien qu'on ne trouve pas de traces de cela. Il y a une conjecture qui serait plutôt originaire de Wartem, dans le district de Côme.
Voilà. Alors, il y a les érudits se discutent à ce sujet-là. Alors, est-ce qu'il est, il se dit aussi gentilhomme de Rome?
Oui.
Voilà. Alors, est-ce qu'il est de Bologne? Est-ce qu'il est de Rome? Est-ce qu'il est, on ne sait pas. Il y a beaucoup de zones d'ombre et d'incertitudes.
Bon, toujours est-il qu'il était épris de ses voyages, d'aventures, d'explorations. Il serait aussi soldat, artilleur, militaire.
Alors, il aurait effectivement une expérience militaire et il se serait engagé comme soldat au service d'un certain nombre de pays. En tout cas, il y a une incertitude aussi sur le fait, est-ce qu'il a été vendu comme esclave ou pas? Ça aussi, c'est un point qui est discuté. Hein. Et lui, à ce sujet, ne donne aucune information qui puisse jeter quelques lumières sur sa véritable condition.
En tout cas, un homme affranchi et libre, quand il reviendra, quand il écrira son itinéraire, il le fait en homme libre.
Il le fait en homme libre à partir, je crois que la première édition de l'itinerario est de 1510. Et elle connaît, mais peut-être on en parlera plus tard, un succès durable, immédiat et durable.
Alors au tournant du XVIe siècle, il décide donc de voyager, il s'embarque à Venise pour aller en Alexandrie.
Voilà, pour aller à Alexandrie, et il écrit lui-même, alors je le cite là, « Le désir qui a poussé beaucoup d'hommes à voir la diversité des royaumes terrestres, m'a incité, moi aussi, à tenter la même entreprise. » Donc là, il y a un désir, contrairement à ceux qui sont faits prisonniers, dont on dira peut-être quelques mots tout à l'heure, où il y a une absence de désir total. Ludovico di Vartema, lui, est possédé par le désir de voir la diversité du monde. Mais, précise-t-il, à la différence de ses prédécesseurs ou de ses contemporains, lui, ce qu'il veut, c'est voir des pays où peu sont allés, qui sont peu connus, oui, exotiques. Et je dois dire que ça, que Vartema est typiquement un homme de la Renaissance. Parce que c'est à ce moment-là, l'Amérique vient d'être découverte, au moment où il embarque pour Alexandrie, l'Amérique vient d'être découverte depuis 10 ans. On voit des choses extraordinaires, des langues inconnus, des gens, des peuples inconnus, le monde s'élargit et le désir de remonter aux sources, de voir par soi-même, de constater de visu les choses et non plus de s'en tenir à une connaissance livresque. Alors la nouveauté, je pense, elle est là.
Oui, donc un homme typique de la Renaissance, oui. Il est en Égypte parce qu'il a entendu parler du Caire, il remonte le Nil.
Voilà.
Dans un premier temps, il était plutôt ébloui par le Caire, puis il déchante vite.
Voilà, il déchante vite, alors qu'à la même époque, nous savons par toutes sortes de documents historiques et de témoignages que les Mamelouks ont fait quand même un effort.
On est sous les Mamelouks.
Oui, on est sous les Mamelouks. On fait un effort de restauration des édifices anciens, de construction, etc. Mais bon, ils considèrent que c'est pas assez. C'est une ville qui est surcotée, surévaluée, et ils déchantent vite.
D'Égypte, il ira dans les pays du Levant, d'abord Beyrouth, Alep, Damas.
Voilà.
Et c'est là où il décide d'aller à la Mecque.
Alors, à Damas, son idée de qu'il avait probablement dans la tête, dans l'esprit de voir la Mecque, là prend forme et consistance. Il se met à apprendre la langue arabe. Et il se met à apprendre la langue arabe pour précisément accréditer l'idée qu'il est vraiment un musulman, quoi, un vrai converti.
Auquel cas, il va accomplir, comme tout musulman, le cinquième pilier de la pratique culturelle islamique, c'est-à-dire le pèlerinage à la demeure de Dieu.
C'est ça.
La Kaaba,
voilà.
Ce temple cubique.
Exactement.
Dont il dira que c'est une tour.
Oui.
Plus tard.
Une tour.
Alors, comment ça se passe, tous ces préparatifs du voyage?
Alors, il dit qu'il prend langue avec un mamelouk, et qui, moyennant des cadeaux, etc., lui promet donc de faciliter son voyage à la Mecque. Et donc, il veut vraiment aller à la Mecque. Comme je l'ai dit, la différence avec les voyages, les récits de voyages du Moyen-Âge, etc., qui étaient souvent emprunts d'un esprit religieux, certains de type croisade, etc., là, Divartema veut voir par lui-même, parce qu'il considère que l'expérience, le témoignage direct, le témoignage des sens, peut être une base scientifique pour la connaissance de l'autre.
Et sur les faits, donc on est le 4 avril 1503,
voilà.
Il fait partie donc d'une cohorte de pèlerins.
Voilà, il raconte ça dans le détail, la caravane, etc.
Qui prendra 40 jours.
Voilà, ça prend 40 jours. Voilà. Oui. Il précise que ça prend 40 jours de Damas à la Mecque.
À Médine d'abord ou à la Mecque directement et puis on remonte à Médine?
Non, je pense qu'il va d'abord à Médine et ensuite il va à la Mecque. Et donc il est. Alors il en profite pour démystifier un certain nombre de réalités. Alors on disait en Occident que le tombeau du prophète était suspendu.
En lévitation.
Voilà, hein, okay. En lévitation. Alors. Donc il dément, il dit que c'est pas du tout le cas. Alors ça sera démenti aussi par d'autres voyageurs plus tard. Et après, donc il est à la Mecque. Qu'il considère comme étant une très noble ville, en même temps que le paysage est aride.
Il dit même que c'est maudit par Dieu.
Voilà, il dit que c'est maudit par Dieu, que c'est une. Alors voilà, donc c'est une cité maudite par Dieu et c'est une très noble cité. Alors ce qui a conduit certains universitaires qui ont travaillé sur le voyage, l'itinéraire de Vartema, à dire qu'il y a un certain nombre de contradictions et même à émettre l'hypothèse qu'il ne serait peut-être pas allé là où il prétend être allé, en tout cas pas partout.
Oui, enfin, l'aridité du désert et le temps caniculaire, pour lui, sont signes de cette malédiction. En même temps, il est surpris de voir tant de monde
oui.
En si peu de temps
alors,
et
il, oui.
Dans un espace réduit.
Voilà, alors voilà par exemple quelques mots sur la description de Vartema. Il dit « Au milieu de la ville, il y a un temple magnifique comparable au Colisée ». Voilà. Alors on appréciera diversement la comparaison avec le Colisée, mais au lieu d'être fait de grosses pierres, il est en pierre cuite. Il est rond, il y a tout autour 80 ou 100 portes, et il est voûté. Sous ces voûtes se tiennent près de 4000 à 5000 personnes, tant hommes que femmes, qui vendent toutes sortes de parfums, et on ne saurait dire en vérité les agréables odeurs que l'on respire dans ce temple. Voilà à peu près, enfin j'ai un peu abrégé,
oui.
Voilà à peu près comment il décrit... Il décrit la Mecque. Et après, bon, bah, il fait. Alors, La faiblesse, je pense que l'une des faiblesses du voyage de Wartema, c'est sa méconnaissance de l'islam. Les rites, la description des rites qui ont intéressé beaucoup d'autres voyageurs ne l'intéressent pas tellement.
Oui. Et il n'avait pas suffisamment de temps pour s'y préparer.
Il n'avait pas suffisamment de temps pour s'y préparer et il ne connaissait pas fort bien la langue arabe. Je pense qu'il connaissait, il avait de quoi se débrouiller dans les conversations de la vie quotidienne, mais il ne savait pas assez d'arabe pour pouvoir vraiment connaître la religion musulmane. Cela dit, Mahomet reste un imposteur et toutes les hérésies musulmanes, tout ça, c'est de la canaille.
Hein, c'est oui, le mot c'est qu'il ce qu'il lui dit.
C'est le mot qu'il emploie. C'est le mot qu'il emploie. Donc, en tout bien tout honneur, le lecteur occidental n'est pas dépaysé.
Et sa connaissance lacunaire de la langue arabe oui. lui vaut quelques déboires puisqu'il va être étonnamment reconnu par un marchand qui l'avait vu ailleurs, notamment
alors,
à Venise.
Il y a un marchand qui lui dit mais tu, je t'ai vu à Venise. L'autre commence par démentir et puis finalement il avoue qu'il a bien été à Venise et qu'il s'est fait musulman au Caire. Alors ça rassure son interlocuteur qui lui promet de l'aider, en échange de quoi Wartema lui dit qu'il est artilleur et qu'il voudrait bien aider les puissances musulmanes dans leur combat contre les puissances chrétiennes.
Et notamment les ambitions, entre autres, de Vasco de Gama.
Voilà, exactement.
Alors, de ce fait, il ne retourne plus avec ses amis avec lesquels est venu depuis Damas. Il va repartir.
Voilà, il gagne Jeddah. Et de là, il part au Yémen où commence une autre étape de son séjour oriental. Quoi.
Poursuivons un peu ce périple. Chez les puristes, il y a un périple quand il y a une pièce d'eau quand on traverse. Oui. Donc là, c'est vraiment un périple. Il part à Aden, traversant le détroit de Bab el-Mandeb.
Exactement.
Et là, il se fait arrêter un espion.
Voilà, là, il se fait arrêter comme un espion. Et puis, on lui demande de prononcer l'attestation de foi, la shahada. Alors là, il refuse.
C'est curieux.
C'est très curieux. Alors, il refuse de la prononcer et il reste en prison. Et c'est la femme de l'émir qui, éblouie par la blancheur de sa peau, eh bien, tombe amoureuse de lui. Et il réussit quand même, parce que c'est une position extrêmement périlleuse, évidemment, on le comprend vite. Il réussit, en la manipulant un petit peu, à se faire affranchir et à quitter le Yémen comme ça.
Il lui avait dit qu'il était malade et qu'il devait aller voir un médecin dans un bimaristan, dans un hôpital,
exactement.
Pas loin de la ville, et de revenir, mais il n'est pas revenu.
Il n'est jamais revenu.
Donc après cette idylle, il embarque. Alors, les vents contraires l'emmènent, au lieu d'aller à Ceylan et en Inde,
c'est ça.
Il partira plutôt au Somalie.
C'est ça, il part en Somalie, enfin en Inde, en Éthiopie, l'itinérario donc fourmi de détails sur ces sujets-là. Mais moi, je me suis surtout concentré, puisque ça faisait l'unité, si vous voulez, de mon travail sur les 15 voyageurs, donc je me suis concentré sur son séjour en Arabie. Bon, j'évoque un peu le Yémen, puisqu'on est encore en Arabie, mais je ne me suis guère, en vérité, appesanti sur les détails de son séjour, par exemple, en Inde ou en Éthiopie. Vous voyez ?
Parce qu'il voulait se mettre au service du sultan du Bijapur.
Voilà,
donc,
c'est ça.
On est en Inde du Sud, dans le Kerala actuel.
C'est ça, voilà.
Et là, comme artilleur.
Exactement. Il avait sûrement une formation militaire, hein. Parce que ça ne... Je veux dire, bon, on ne peut pas donner le change, hein, si on ne peut pas se présenter comme artilleur et donner le change quand on est mis face aux armes. Donc il était sûrement soldat, il avait sûrement une formation d'artilleur. Hein.
Thank you.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec aujourd'hui le philosophe et journaliste Omar Merzoug et nous parlons de ce voyageur humaniste, il se présente aussi comme gentilhomme de Rome, Ludovico de Vartema. Pour certains, c'est le premier occidental à avoir visité la Mecque et d'en avoir fait une relation de voyage dans l'itinerario. Et c'est le fait de connaître ce personnage qui nous a motivés avec Omar Merzoug. Alors, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les grandes lignes de cette relation en ce qui concerne l'Arabie, puisqu'il y a des choses qu'il rapporte, mais d'autres qui il se trompe a priori.
Oui, alors il y a des erreurs, il y a un certain nombre d'erreurs, parce que ça n'est pas un excellent observateur. C'est peut-être dû à ses motivations. Alors lui, il n'était pas là, si vous voulez, pour décrire la religion musulmane. Il est clair que pour le milieu dont il vient, la culture dont il est le produit, la religion dont il est issu, etc. Il est clair que la religion musulmane, ça n'est qu'une hérésie chrétienne, etc. Donc c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Alors, on est aussi frappé par l'absence, si vous voulez, de renvoi livresque ou de documentation universitaire ou par exemple il renvoie très très peu à des gens qui l'auraient précédé ou à des voyageurs du Moyen Âge, etc. Il en parle quasiment pas, donc on a l'impression que c'est un peu vraiment un innovateur en quelque sorte qui prétend témoigner de la Mecque, de Médine, des lieux saints de l'islam et finalement être intéressé par ce qui est aventureux et pas du tout par le reflet d'une certaine réalité, quoique le témoignage qu'il donne est quand même important, malgré ses erreurs. Je veux dire, d'autres voyageurs qui sont bien postérieurs commettront aussi des erreurs, hein, qui connaîtront mieux la langue arabe et qui connaîtront mieux la religion musulmane, mais qui commettront quand même des erreurs.
Hein. Dû peut-être au manque du fond historiographique.
Oui, sans doute. Il faut dire qu'on connaissait très très peu de choses, hein, des lieux saints de l'islam, de la Mecque, etc. Et alors la fascination qu'a exercée l'Arabie, je veux dire, est en proportion inverse de la connaissance qu'on en avait, quoi. Moins on connaissait de choses, plus on était fasciné.
Il ne s'est pas intéressé, par exemple, à la traduction du Coran ordonnée par Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny.
Non.
Ni peut-être à la rencontre entre saint François d'Assise et Malik el-Kamil à Damiette.
Il n'en parle jamais.
En 1219.
Il n'en parle jamais. Je pense que c'est quand même un aventurier. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui ça n'est pas un érudit.
C'est plus un aventurier explorateur qu'un érudit et historien.
Oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison du succès de son livre, qui est durable, puisqu'il a été très vite traduit en un certain nombre de langues.
Une cinquantaine.
Voilà, donc et le succès de son livre dure à peu près une cinquantaine d'années, quoi. Donc c'est quand même, à l'époque, c'est un fait notable. Parce qu'on pourrait dire qui l'Arabie intéressait vraiment à cette époque-là. Et pourtant, le livre a été traduit en latin, il a été traduit en allemand, je crois qu'il a même été traduit en espagnol, me semble-t-il, et donc en d'autres langues. Et ça dure un demi-siècle. Hein.
Oui. Si on revient uniquement à la phase qui nous intéresse là, le pèlerinage à la Mecque, et puis il essaiera de se fondre dans la foule des pèlerins, à la fois par l'habit, en essayant de vivre d'une manière caméléonesque.
Oui.
Mais tout de même, on le repère.
On le repère, mais ce qui est étonnant. Bon, alors, il y a cet individu qui dit l'avoir vu à Venise, mais à part celui-là, finalement, il a réussi son déguisement.
Puisque, pour peu qu'il ne parle pas beaucoup.
Oui, il est très discret, donc il n'a pas dû beaucoup parler, et on ne l'a pas repéré en tant que tel, parce que si on l'avait repéré, évidemment, il est évident qu'il aurait connu de plus grands risques. Peut-être aurait-il été tué, etc. Mais, et à l'évidence, il savait assez d'arabe parler pour se présenter comme un Damasène. Sans doute avait-il l'accent des Damasènes. Et bien que méconnaissant les rites de la religion musulmane et la religion musulmane elle-même, eh bien, je me souviens qu'un voyageur postérieur qui s'appelle Joseph Pitts, dont on va peut-être dire quelques mots, lui dit qu'il dit, il y a deux conditions au pèlerinage, après avoir énoncé les deux conditions qui sont donc les moyens financiers et la santé, eh bien, il dit que la plupart des pèlerins ne connaissent pas les propres rites, les rites. Oui. De la religion musulmane.
Le cas de Joseph Pitts et autres, parce que lui, il a été plutôt capturé par les barbaresques.
Les corsaires barbaresques.
Ou les pirates.
Tout à fait.
Parce que la course des uns, des As, c'est la piraterie des autres.
Exactement.
Et ça. Lui, finalement, il peut aussi se prévaloir du fait qu'il a embrassé l'islam de fraîche date, et s'il ne connaît pas trop le rite ou même la langue, c'est pas bien grave puisqu'il est en apprentissage.
Il a dû sûrement faire valoir ça. Pour dissiper les doutes qui auraient pu survenir, il a dû certainement faire valoir le caractère frais, le caractère nouveau de son adhésion à l'islam. Et d'ailleurs, ça a dû lui valoir même des encouragements. Puisqu'on a dû certainement s'émerveiller du fait qu'un garçon jeune, plutôt dégourdi, ait le courage, l'audace d'apprendre l'arabe et d'embrasser la religion musulmane, je pense que ça a dû lui valoir quelques compliments.
Oui, enfin, de reconnaître enfin la foi
et la vérité absolue. Voilà.
On est toujours ravis de gagner des prosélytes.
C'est ça.
Parce que le prosélyte n'est pas celui qui
valoir.
C'est celui qui est gagné à la cause.
Ça fait valoir le reste du cheptel.
Oui, et ça réconforte la foi. Et on est malheureux de voir des gens de la communauté s'égarer. C'est curieux cette approche, j'allais dire quantitative, des nombres qui composent la dite communauté. Continuons, si vous voulez bien, Omar Merzoug, d'essayer de cerner le personnage. On ne connaît pas grand-chose sur sa famille.
Ni
lui, c'est-à-dire, est-ce que ses relations matrimoniales, a-t-il eu une famille, des enfants ?
Alors, il est sûrement issu d'une famille, évidemment, mais est-ce qu'il a eu des enfants ? Qu'est-il devenu ? Qu'a-t-il fait avant son voyage ? Qu'a-t-il fait après son voyage ? Parce que entre la publication de son voyage et sa mort, se passe quand même 7 ans, pendant lesquels on ne sait strictement rien de lui. On ne sait rien de cet homme. Sauf quelques petites choses, le voyage, on a un texte qui est l'itinerario, où il raconte effectivement un certain nombre de choses, où on peut avoir une idée à peu près de sa personnalité, de ce qu'il aime, de ce qu'il aime voir, etc. Mais sur des détails précis, c'est-à-dire que, si vous voulez, un biographe qui voudrait écrire une biographie de divers thèmes, ça se réduit à une notice de 3 pages.
Oui, d'autant plus que même la date de son décès de 1517 n'est qu'une conjecture, parce qu'on aurait eu une trace de lui encore vivant une année ou deux plus tôt, vers 1515-1516, il était encore en vie, selon le témoignage de certains.
Si je voulais faire une biographie de Divar Théma, je devrais faire une biographie très romancée.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut interpoler...
Voilà.
Il y a un point qui m'a surpris, c'est qu'il ne cite pas ce qui s'est passé une année plus tôt, en 1502, en mer d'Arabie, un massacre de pèlerins ordonné, paraît-il, c'est vous qui le rectifiez ou pas, par Vasco de Gama, et ça a beaucoup, en tout cas meurtri, c'est resté vivace dans les mémoires, l'année d'après, chez les pèlerins.
Oui, alors, est-ce qu'il en a eu connaissance ? Est-ce que... Vous savez, les informations à l'époque, ça circulait très, 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 très lentement. Même si ce massacre de pèlerins a été très important et a été une sorte de commotion, il n'est pas sûr que Divar Théma en ait eu connaissance. Et il n'est pas sûr, peut-être, que l'économie de son écrit ait pu donner à ce genre d'événements... un écho, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était d'abord de décrire, de voir des villes, de vivre des aventures, et pas tellement de s'apesantir sur des massacres. Après tout, à l'époque...
Et on n'est même pas sûr de l'événement lui-même.
On n'est pas sûr de l'événement. Et alors, c'est ce genre de détails, si vous voulez, quand on regarde, quand les spécialistes et les érudits se penchent sur des personnages comme Divartema, c'est ce genre de phénomène et d'événements qui sèment le doute sur la réalité du voyage de Vartema. Est-ce qu'il a été là? Est-ce qu'il a? Comment se fait-il qu'il n'ait pas appris tel fait? Comment se fait-il qu'il... Bon, donc ça sème le doute. Mais bon, je pense qu'il a... Moi, je pense que pour le chapitre qui m'intéresse et qui est très circonscrit, donc l'Arabie, je pense qu'il a vraiment été en Arabie. Je pense qu'il s'est vraiment présenté comme un converti à l'islam. Je pense qu'il a vraiment tenté et sûrement appris de l'arabe, il savait sûrement de l'arabe, et c'est ça qui m'intéressait. Alors, est-ce que dans son âme de chrétien, plus ou moins convaincu, est-ce que ça a donné lieu à des débats, etc. Et moi, ce qui m'étonne plutôt...
Vous parlez de débats internes,
oui,
entre lui intérieur, et son fort
oui,
intérieur.
Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans l'itinerario, il n'y a pas du tout... Alors, à part les lieux communs, Mahomet est un imposteur, etc. Il n'y a pas une islamophobie,
oui,
qu'on pourrait appeler aujourd'hui une islamophobie, si vous voulez.
Oui, mais il parle d'un chrétien converti avant lui comme étant un renégat qui a abjuré sa religion.
Oui, oui, ça n'empêche pas, parce que c'est assez convenu. Et ça me fait penser, vous voyez, à ce que quelqu'un comme Benassar a appelé les chrétiens d'Allah. Vous voyez, ces gens-là qui ont été en Algérie et ailleurs... qui ont passé une partie de leur vie en tant que musulmans et qui ont dû revenir en terre chrétienne. Donc, tous disent qu'ils ont été contraints d'embrasser l'islam. Parce que si vous ne dites pas ça, bah, votre vie est impossible en Occident.
Oui.
En terre chrétienne, en tout cas.
Oui, mais heureusement que de nos jours, ça doit être, ou ça devrait être, ça doit être tout à fait garanti, les options métaphysiques des uns et des autres. On peut faire des va-et-vient.
On a évolué.
Et heureusement, là, on est plutôt fin 15e, début 16e siècle. Et Ludovico Devartema, en tout cas, en a eu pour ce qu'il voulait, surtout quand il commence à présenter... dans certains détails, comment la caravane elle-même, composée de chameaux, comment le voyage sur ces montures-là...
S'organise,
oui.
Alors, il n'est pas aussi précis que d'autres, parce que certains voyageurs donnent des détails. Par exemple, ils vous disent qu'il y a 4 caravanes, l'une qui vient du Maghreb, l'autre qui vient d'Afrique, etc. Et donc, il y a 4000 chameaux, il y a tant de soldats qui surveillent, comment est fait le quotidien, etc.
Et que c'est le chameau le plus lent qui imprime la cadence ou le rythme à la caravane, sinon elle s'effiloche.
Ça devrait quand même être une extraordinaire aventure que d'aller à d'autres chameaux. Je veux dire, ce que personne aujourd'hui ne tenterait entre Damas et l'Arabie, quoi. 40 jours à d'autres chameaux. C'est quand même pour Vartema, qui vient donc d'Italie et qui connaissait une autre société, c'est quand même quelque chose qui devait être assez extraordinaire et assez exotique. Et je crois que c'est ce qu'il recherchait, l'exotisme, la différence, apprécier la différence des sociétés dans ce qu'elles ont en fait de palpable, de tangible. Et donc l'islam lui paraissait assez éloigné de sa culture d'origine, pour satisfaire, si vous voulez, à ces critères d'exotisme.
Et il prenait note dans une sorte de carnet de voyage où il se fondait davantage sur sa mémoire, où il restituait les choses comme ça, un peu d'une manière romancée dans son itinérario.
Je pense que c'est un homme discret, donc prudent. Donc je pense qu'il a engrangé tout ça dans sa mémoire et qu'il a rédigé après son retour, à mon avis, En tout cas, pour ce qui concerne les lieux où il était directement menacé dans sa personne, c'est-à-dire où il pouvait être menacé pour fausse conversion. Et donc, je pense qu'en Arabie, à Médine et à La Mecque, je pense qu'il n'a rien rédigé du tout. Il a rédigé ça plus tard, sans doute dans d'autres pays, et peut-être la forme finale de son livre a été faite en Italie, après son retour, en 1508.
Les moments délicats, je dirais, de son voyage ont été à Médine, La Mecque et surtout à Aden.
Oui. Alors là, il était en plus mauvaise posture. Hein. Là, il est quand même dans une relation de type amoureux. Pour lui, évidemment, il est beaucoup moins amoureux de la femme de l'émir.
C'était l'émir, c'était le sultan,
oui.
C'était...
Le émir, sultan, etc. Vous savez...
Les titres changent, mais en leur importance.
Voilà, exactement. Donc là, il était en plus mauvaise posture, parce que là, il aurait pu, effectivement... Là, c'était plus du tout la religion qui était en jeu, puisqu'il a refusé de se déclarer musulman. Là, c'était l'atteinte à la vie, enfin, à la propriété.
Et à l'honneur du
sultan. Alors ça, c'est encore plus impardonnable.
Avec cette idée de l'honneur atrophié,
ah oui,
investi dans l'épouse du sultan.
Et comment
Revenons encore, si vous voulez bien, Omar Merzouk, à ces détails erronés, peut-être que sa mémoire n'a pas pu les restituer, sur les tombes dont il mélange les,
oui, alors il
si
dit,
je puis dire, les occupants.
Alors
les
il dit, oui, alors voilà, c'est ça. Il dit que Ali, par exemple, qui est le quatrième calife et dont le chiisme se réclame, n'est-ce pas? Il dit qu'il est enterré à côté du prophète. Alors ça, c'est évidemment une erreur d'un assez gros calibre. Et je me demande comment il a pu faire une erreur.
Est-ce qu'il est enterré à Najaf?
Oui. Et je me demande comment il a pu faire une erreur pareille. Puisque même la femme préférée du prophète a refusé de se faire enterrer à côté du prophète. Puisqu'elle a dit...
Vous parlez d'Aïcha.
De Aïcha. Puisqu'elle a dit qu'elle ne le méritait peut-être pas. Puisqu'à, contrairement à ce qu'on dit, ce n'était pas une femme dominée. Puisqu'elle a conduit quand même une armée contre Ali dans les combats qui relèvent de la grande discorde et qui peut-être demanderait des développements plus conséquents. Donc je me demande comment Divartema a pu faire une erreur pareille. C'est assez curieux, je dois dire.
Et puis un mélange aussi, presque dans l'ordre chronologique des califes, mais on ne peut pas lui en vouloir à ce moment-là, mais il aurait pu davantage s'assurer... En tout cas, des grands noms, au moins des tout premiers califes.
Mais je pense, voilà, ça, ce sont des détails qu'un universitaire ou un érudit ou un lettré n'aurait pas laissé passer. Mais comme lui, ça n'était pas, d'une part, un érudit, il n'était pas motivé par la connaissance livresque et érudite, et d'autre part, la religion ne l'intéressait pas, je pense que l'histoire religieuse ne l'intéressait pas tellement. Ce qui l'intéressait, c'est vraiment l'aventure, l'exotisme, la connaissance de lieux et de gens que personne n'avait vus avant lui. Je pense qu'il voulait faire œuvre un peu de précurseur, si vous voulez. Et c'est ça qui le motivait, je pense. Parce qu'il a dû se dire qu'il y avait assez de gens qui connaissent l'érudition, etc., pour restituer ça. Je pense qu'il ne s'est pas beaucoup intéressé. C'est pour ça qu'on a des erreurs comme ça.
Oui, mais à mon avis, tout cela n'a pas pris beaucoup de temps à comparer avec l'un de ses prédécesseurs, mais en contexte islamique, Ibn Battuta.
Oui.
Lui, en gros, c'est un lustre, hein, c'est 5 années. Globalement, c'est de 1503 à 1508.
C'est ça.
Si on inclut... L'Inde, la Birmanie, le Sumatra, les Moluques, il ne restait pas beaucoup dans ces pays visités, dans ces contrées.
Non, il ne restait pas beaucoup parce que, encore une fois, ce qui l'intéressait, une fois, si vous voulez, c'est l'aventure, une fois le piment de l'aventure dissipé, le charme, si vous voulez, dissipé, il partait ailleurs. Mais Ibn Battuta, c'est... Bon, d'abord, la différence avec Ibn Battuta, c'est qu'Ibn Battuta n'a pas lui-même rédigé, il a dicté. Ses mémoires et ses souvenirs, en quelque sorte. Ibn Battuta, c'est quand même 22 000 kilomètres. C'est d'immenses territoires, etc.
28 années de
pérégrination. C'est quand même une génération à l'échelle humaine. C'est quand même une génération. Bon, l'homme, c'est vraiment l'homme au sommet devant. Alors, s'il y en a un qui mérite ça, c'est vraiment Ibn Battuta.
28 années en trois phases.
Oui, en trois phases.
Bien entendu.
Voilà.
Alors que Ludovico Divartema, un peu plus tard, c'est sur une tranche de 5 années, plus ou moins 1 an, 5-6 ans, et les moyens aussi de transport sont, on l'a vu, la caravane pour la partie terrestre et désertique, mais aussi ce sont les vaisseaux.
Oui, c'est ça, ce sont les vaisseaux. Et donc, c'était les moyens de l'époque. Alors, évidemment, il est postérieur à Ibn Battuta, donc il y a eu évidemment un progrès technique. On allait beaucoup plus vite, enfin un peu plus vite dans les voyages et dans la technique des vaisseaux, mais guère davantage en fait, puisqu'il faut attendre le 19e siècle pour avoir le bateau à vapeur, etc. Donc là, le voyage aussi change, il est plus rapide, on va beaucoup plus vite. Mais encore une fois, Ludovico de Wartema, c'est un aventurier. C'est un aventurier qui se pique de donner des témoignages inédits. Je crois que c'est ça son projet. C'est pas tellement de vérifier la véracité de tels détails, de s'apesantir, de questionner, parce qu'il aurait pu très bien demander aux pèlerins, est-ce que Ali est enterré là, est-ce que tel détail. Non, il le fait pas.
يا مكة الخير بي شوق يتيمني إلى حماك يا مكة الخير بي شوق يتيمني
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le philosophe et journaliste, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, Omar Merzoug. Et nous parlons aujourd'hui tout particulièrement de ce gentilhomme de Rome, Ludovico de Wartema, le Bolognais, qui est considéré par les historiens comme le premier occidental à avoir visité la Mecque, entre autres. Il en fait une relation dans son Itinerario, cet ouvrage qui connut une célébrité réelle au XVIe siècle. Et dans cette dernière partie de l'émission, Omar Merzoug, est-ce que Ludovico de Wartema va susciter des émules plus tard, entre le XVIe et le XIXe siècle? Vous vous y intéressez aussi à ces explorateurs, à ces aventuriers, pas uniquement dans la région du monde islamique, mais même aussi ailleurs.
Alors, il est certain qu'un certain nombre de voyageurs ont pris connaissance de l'itinerario de Di Wartema pour le sujet, pour l'intérêt du sujet, mais surtout à cause du succès durable qui a été le sien. Alors, Burton,
Pitts.
Alors Pitts, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que Pitts ait pris connaissance. C'est peut-être, je ne suis pas certain que Pitts ait pris connaissance pour les raisons que je vais dire. De l'itinéraire, pour les raisons que je vais dire. Mais d'autres voyageurs comme Doughty, Burton, Palgrave, etc. Ces gens-là ont sûrement lu l'itinerario. Alors, si je prends le cas de Pitts. Voilà quelqu'un qui, à 15 ans, alors c'est un garçon qui est né en 1663 à Exeter, en Angleterre. Il est très jeune, attiré par le voyage. Il veut devenir marin, malgré l'opposition de sa famille. Au retour d'un voyage de Terre-Neuve, il est pris au large de l'Espagne par les corsaires barbaresques. Il a 15 ans.
14-15 ans, voilà. 16 ans, voilà. Tu es adolescent.
Ça se passe en 1678. C'est un très jeune garçon. Alors il est évidemment extrêmement effrayé par le rapt, et c'est un renégat hollandais qui est à la tête de l'escouade des corsaires qui le kidnappent. Alors tous ces gens-là sont amenés à Alger, il est vendu parce que ce qui nous intéresse c'est le voyage en Arabie, et en 1680, il est musulman. Joseph Pitts dit qu'il a été obligé, qu'il a été forcé de se convertir à l'islam par la bastonnade, par le gourdin de son troisième maître turc. Bien. Donc, en 1680, ils embarquent d'Alger.
Et pourtant, nulle contrainte en la religion. Voilà. Mais donc c'est...
D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Parce qu'une fois arrivé au Caire, il dit, tiens, mais c'est curieux, ici, les prisonniers chrétiens qui sont faits sur les champs de bataille et ailleurs, ici, ailleurs, ne sont pas tourmentés pour leur foi. Peu importe. En tout cas, lui, il dit qu'il a été converti de force. Il est à Alexandrie, au Caire, il descend le Nil, il raconte son voyage, son pèlerinage à la Mecque. Et là, dans la version que moi j'ai utilisée du récit de Pitts, il y a même un dessin. Il a pris la peine de dessiner de manière très réaliste la Mecque, le temple. Et là, on a des descriptions qui sont beaucoup plus précises et un exposé de la foi musulmane qui est extrêmement précis. Donc c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup mieux l'arabe que Divartema, puisqu'il l'a appris très jeune, finalement, et qui connaissait la religion musulmane parfaitement. Alors évidemment, de temps en temps, il dit « Oui, Mahomet est un imposteur. Oui, les musulmans ont une sainte horreur de la Sainte Trinité. Oui, ceci, cela. » Mais c'est un témoignage beaucoup plus fiable, beaucoup plus précis que celui de Divartema.
Alors si on reste toujours dans ce registre de la postérité de l'itinerario de Divartema, est-ce que Richard Burton, Richard Francis Burton, pour qu'on ne le confonde pas oui. avec l'acteur et ne pas commettre d'anachronisme, donc c'est plutôt l'explorateur et aventurier, mais peut-être beaucoup plus érudit, Richard Burton au 19e siècle, mais les connaissances sont avancées aussi.
Oui. Alors Richard Burton cumule l'érudition et le caractère aventureux. Alors, c'est un Divartema beaucoup plus moderne, très 19e siècle, gentleman, etc., très, très british, au fond, l'élégance britannique, en même temps la fourberie, etc. Mais c'est quelqu'un qui...
Parce qu'il était consul aussi
oui,
de Sa Majesté.
Oui, tout à fait. Et la perfide Albion, comme on dit. Et donc, c'est quelqu'un qui est savant, qui connaît parfaitement l'arabe, hein, puisqu'il a traduit des textes arabes, notamment les Mille et Une Nuits, et qui, quand même, a un côté aventurier. Hein. Donc, alors, il a couru, évidemment, un certain nombre de risques, puisque les musulmans de la Mecque ne sont pas idiots.
On l'avait dissuadé, paraît-il, dans un premier temps, d'y aller.
Oui.
Il tenait à voir de visu.
Oui, de visu et fidélitaire, comme on dit.
Fidélitaire, oui.
De visu et fidélitaire. Vous savez, la fascination de l'Arabie était telle que, je citais tout à l'heure Zetsen, et il y a Palgrave aussi qui dit qu'il faut absolument décrire l'Arabie, établir des cartes, nous savons que nous risquons notre peau, mais il faut quand même y aller. Et ce continent ne saurait être une terra incognita, et si vous voulez, la dissuasion fonctionnait un peu comme la muleta pour un taureau, pour un toréador, pour un taureau. Hein. Donc, ça décuplait, ça multipliait l'envie de partir en Arabie, de faire des découvertes, et aussi là, de l'inédit, parce qu'en plein 19e siècle, l'Orient exerce une fascination encore plus grande, puisque les voyages en Orient se multiplient, vous avez tous les grands écrivains français, Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Gautier, tous ces gens-là vont soit en Orient, soit en Algérie, on a aussi Caillé, René Caillé, qui était obsédé par Tombouctou, donc là on est en pleine Orient mania, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, s'inscrit effectivement le voyage de Burton. Mais il y a aussi, à la même époque, Charles Doughty, qui, lui, a été physiquement maltraité. Alors lui, il s'est toujours présenté comme chrétien. Doughty n'a jamais dit qu'il était converti, il ne s'est jamais présenté comme musulman, il a toujours dit qu'il était chrétien, et c'est comme ça qu'il a fait son voyage, il a laissé un énorme ouvrage qui a été traduit intégralement aux éditions Cartala, je crois, en français très récemment. Lui, il a été physiquement maltraité.
Peut-être deux petites choses, si vous voulez bien, Omar Merzouk. La première, pour revenir à Ludovico di Fartema, qui a inauguré, en gros, ces voyages et pour ces découvertes et assouvir, justement, ce désir de connaissance, à la fois pour la fortune, il le dit si bien, et aussi pour l'aventure et pour connaître le monde. On est, comme vous le dites si bien, avec un homme de la Renaissance. Est-ce qu'il a... Il ne parle pas beaucoup de Jérusalem.
Est-ce qu'il a été à Jérusalem ?
C'est étonnant.
Hein ? Est-ce qu'il a été à Jérusalem ?
Et
je crois que la chose religieuse ne l'intéressait pas.
Hein ? Et aussi, l'engouement pour la Mecque, c'est peut-être l'interdit, parce que à l'époque, et même après, la Mecque n'est pas la capitale d'un empire, ni celle des Omeyyades avant, ni celle des Abbassides, et encore moins de l'Empire ottoman. Certes, c'est un sanctuaire pour les pèlerins et un lieu de culte, mais ce n'est pas une cité resplendissante, de capitale.
Je pense que la chose religieuse ne l'intéressait pas, et d'autre part, Jérusalem ne lui était pas interdite, alors que la Mecque est explicitement interdite aux non-musulmans sous peine de mort. Je veux dire, un non-musulman qui serait pris à cette époque-là dans la Mecque serait considéré comme c'est un crime, si vous voulez, comme ayant commis un crime de lèse-religion.
Omar Merzouk, une toute dernière question. Vous pensez que l'intérêt pour ces voyageurs qui, au péril de leur vie, ont voulu connaître la Mecque, donnerait lieu à ce moment, peut-être pas au conditionnel, même donnera une idée, est-ce que la circulation des biens, des personnes, soit réelle et que, peut-être en dehors du pèlerinage, la ville, la cité de la Mecque puisse être possible aux non-musulmans, le fait de la visiter ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Oui. Alors aujourd'hui, l'interdit demeure.
J'entends bien, pour que ça soit levé.
L'interdit demeure. Alors vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent être levées avant cet interdit. Je ne pense pas que ce soit vraiment une priorité. Je pense que la vraie priorité, c'est d'abord de faire un certain nombre de rectifications, de corrections au sujet de la religion musulmane, de la manière dont...
Finir avec le wahhabisme.
De toute façon, je pense qu'il faut en finir avec le wahhabisme, qui est une clôture, une forclusion de la pensée, de l'esprit critique. Je crois que c'est une régression terrible, le wahhabisme. Hein, terrible.
Bien. Alors, tout en vous remerciant, Omar Merzouk, de nous avoir présenté Ludovico di Fartema. On dit souvent que c'est le premier occidental à avoir visité la Mecque au tournant du XVIe siècle. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Renaud Fluzin et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
من قبل.